Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission radio La Voix est libre, une émission de l'association Picasoft diffusée sur Radio Graphite. Je suis aujourd'hui avec Stéphane Audrey de Picasoft.
Bonjour Rémi.
Bonjour, pardon. Et on a le plaisir d'accueillir au téléphone Pascal Gascoin, qu'Audrey tu nous présenteras juste après. L'émission d'aujourd'hui porte sur l'éducation populaire et le libre. Je te laisse la lancer.
Ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code. Cette phrase, elle est issue du documentaire The Code, et c'est aussi la devise de l'association d'éducation populaire Framasoft, dont on va reparler dans un instant. Alors cette phrase, elle sonne un peu comme une invitation. Ce serait une invitation à nous pencher sur le pouvoir émancipateur du logiciel libre et sur le défi qui nous est posé à nous, acteurs et actrices du libre, de partager avec le plus grand nombre la capacité à être autonome dans notre environnement numérique. Ce défi d'émancipation, c'est un enjeu d'éducation populaire au numérique libre et ouvert. Et pour discuter d'éducation populaire aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir dans l'émission Pascal Gascoin, qui est chargé de la mission Libre Éducation Nouvelle des CMEA. CMEA pour Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Bonjour Pascal.
Bonjour Audrey.
Alors, Pascal, tu nous parles actuellement depuis le CMEA de l'île de la Réunion. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la mission des CMEA en métropole, en Outre-mer, et puis nous parler des actions d'éducation populaire que tu mets en place?
Alors, je vais essayer. Tu as déjà bien présenté le propos. Les CMEA, en vraiment quelques mots, c'est une on a l'habitude de dire une vieille éducation, association d'éducation populaire et mouvement d'éducation nouvelle. Ça date du Front populaire hein, des années 36-37. On est souvent plus connu par des gens BAFA avec nous, donc la formation pour être animateur de centres de vacances ou de centres de loisirs. Mais on intervient sur tout un tas de gens de l'éducation populaire, puisque sa vocation, c'est dans l'idéal d'améliorer le système social au travers du développement des individuels et social des personnes et de la société. Voilà, ça c'est vraiment pour faire très très court sur ce qu'est cette association. On est présent du coup sur toutes les régions de France, département d'outre-mer compris, d'où ma présence sur l'île de la Réunion en ce moment.
Oui, c'est vrai.
On s'intéresse forcément à. Voilà, ça fait des années qu'on s'intéresse. On va dire, il fut un temps, c'était la radio et puis la télévision, puis les écrans, puis l'informatique. On travaille beaucoup dans l'éducation critique aux médias, et ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années qu'on s'intéresse de plus près au monde numérique dans lequel on vit, parce qu'on vit dans une société qui a tendance à se dématérialiser complètement et à nous imposer des outils numériques qu'on n'a pas forcément choisis. De temps en temps, j'ai l'habitude de parler d'attitude technico-jubilatoire aussi. On nous a habitués à sauter sur le dernier smartphone, sur le dernier logiciel et autres. Tout ça, voilà, et pour faire court, et puis je te laisserai intervenir, voilà, Stallman, que tout le monde connaît dans le monde du libre, en 2006, avait donné une interview à Libération en disant que la liberté numérique était fondamentale, non pas qu'elle soit plus importante que les autres libertés fondamentales, mais qu'au fur et à mesure que toutes nos libertés passaient au travers du numérique, alors celle-là devenait la liberté principale à défendre, et on en est vraiment là. Donc en tant qu'association d'éducation populaire, on ne peut pas juste alerter sur la complexité et la dangerosité du monde numérique dans lequel on vit, mais donc éclairer des citoyens, des citoyennes, et faire en sorte que ils puissent avoir des outils alternatifs à leur disposition et les aider, les convaincre que le numérique est politique avant d'être technique, même s'il est évidemment technique, et travailler à construire un monde numérique tel qu'on en a envie et pas celui qu'on va nous imposer. J'ai essayé de faire court.
Écoute, non, mais c'était très complet, très très clair pour nous et pour nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Pascal. Et en effet, cette volonté d'émanciper les personnes dans cette société numérique dans laquelle nous sommes maintenant, c'est ce qui t'a donné envie justement de concentrer tout ce travail-là et de... Alors, concentrer, ce n'est pas le bon mot, on va dire déconcentrer, mais de concentrer cette énergie pour développer tout une offre d'outils alternatifs et puis aussi de créer la mission Libre Éducation Nouvelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de créer cette mission-là auprès des associations?
D'accord. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Là, pour le coup, c'est vraiment l'association qui a décidé de se doter de cet outil au travers de cette mission et j'ai la chance de la piloter. C'est né d'une démarche interne et complexe au sein de l'association, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous confrontés à nos paradoxes. C'est intéressant. Voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'on est quelques-uns, mais malgré tout assez nombreux au sein des CMA à s'intéresser au monde du libre. On a grandi et côtoyé Framasoft depuis le début parce que il y a une proximité dans l'approche d'éducation populaire avec Frama. Donc en participant aux rencontres mondiales du logiciel libre, en essayant d'apporter ou en tout cas d'éclairer ce qui peut parfois être perçu comme un monde de geek, que l'éducation populaire, elle était... j'avais fait une conférence il y a très longtemps, une quinzaine d'années, aux rencontres mondiales. C'était l'éducation populaire chez nous manquant du libre. Et pour la faire courte, c'était expliquer aux copains qui codaient et qui développaient qu'il y a des moments ils faisaient un peu peur et que nous... On était en capacité d'expliquer leur boulot aux gens normaux et que c'était intéressant. Du coup, on travaille ensemble. Donc c'est ce qu'on essaye de faire depuis un moment. Et puis en toute logique, il a fallu qu'on se l'applique à nous-mêmes. Donc c'est passé par des débats costauds en interne de l'association sur est-ce qu'on peut continuer à utiliser ces outils-là et qu'est-ce qui serait pertinent dans notre fonctionnement. Ça aboutit à un manifeste de nos systèmes d'information qui était non contraignant parce que pour le coup, il faut y aller tranquille dans ces histoires-là, mais qui donnait une ligne directrice qui était chaque fois que ça va être possible, on utilise du libre. Chaque fois qu'il s'agira d'introduire un nouvel outil, il sera libre. Et puis, il y a toutes les problématiques écologiques, de respect des données, etc. Qu'il faut qu'on prenne en compte qu'on utilise des outils qui respectent la vie privée de nos stagiaires, de nos militants. Ça a été le début au travers de ce manifeste. Et puis, toujours pareil, en côtoyant Framasoft, en faisant beaucoup d'ateliers à destination des associations pour leur montrer qu'il y a possibilité d'utiliser d'autres outils que ceux qu'on leur met dans les pattes systématiquement, on s'est rendu compte que ça avait un accueil très très favorable. Plus le temps passe et plus les GAFAM montrent ce qu'ils sont et que les scandales éclatent, il y a une prise de conscience citoyenne de la problématique avec la complexité de il faut que je passe à autre chose mais c'est compliqué, je sais pas comment faire, par où je prends le truc. Et typiquement, les CMA avaient par exemple besoin de vraiment remettre en ordre la gestion de nos mails, de nos agendas partagés, des clouds, etc. Mais dans une logique de gestion associative, on n'a pas trouvé l'outil qui existait, qui convenait exactement à nos besoins. Souvent, c'était trop tourné entreprise. Donc, on a décidé de financer le développement de l'outil dont on avait besoin, qui s'appelle Zurit. Ça veut dire la pieuvre en créole réunionnais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur l'île en ce moment, parce que c'était l'inauguration de Zurit ailleurs qu'au CMEA. qui est un outil libre, pour le coup, qui a été développé en licence GPL, et qui nous permet de faire tout ce que je viens de dire. Donc c'est à la fois... Et puis voilà, au départ, c'était on se le développe, et puis il est libre, chacun, si ça intéresse les gens, ils le prennent, ils se l'installent. Et puis on a croisé plein d'assos qui nous disaient, nous, on est vachement intéressés par votre truc, mais on ne peut pas s'installer un gros machin comme ça, on ne peut pas entretenir un serveur, on n'en a pas... Est-ce que vous ne pourriez pas nous héberger? Et c'est pas la vocation des CNA d'être un hébergeur d'associations, en tout cas des systèmes d'information. Et on a voilà, finalement on en est à un point où la démarche que je viens d'expliquer, qui est fondamentale dans la construction, enfin, en tout cas de la prise de conscience d'une association, et puis la prise en main de l'outil, et on s'est évidemment on s'est rapproché, et voir là à la Réunion par exemple, on vient de créer avec le développeur de Zurit un chaton réunionnais qui va être en capacité d'héberger les données d'associations réunionnaises, et les CMA font cet intermédiaire, font leur boulot d'éducation populaire en expliquant aux associations pourquoi c'est pertinent de mettre ces données dans un Zurit dont on est certain de ce qu'il va faire des données des adhérents plutôt que chez Google. Et puis on peut accompagner la prise en main de l'outil dans une logique associative. Donc c'est comme ça qu'est née la mission Libre Éducation Nouvelle, en se disant on va plus loin, du coup on accepte, on a développé nos outils, on accompagne les associations à ces usages, et on fait en sorte que la question du numérique soit une question politique, parce qu'on doit pouvoir agir sur les choix qui sont faits dans le numérique.
Ah bah, écoute, c'est formidable.
J'ai été court, Audrey.
Ah oui, non. Ah non, mais c'est parfait, on a eu tout l'exposé. Tu vois, on voulait te poser des questions sur les outils conceptuels que vous donniez au public, et puis après les outils plus concrets, des logiciels libres, et puis surtout comment est-ce que les CMA pouvaient justement accompagner toute la mise en place d'outils alternatifs, parce que c'est vrai que c'est ce qui peut manquer peut-être aux acteurs du libre, c'est de, voilà, on développe, on héberge des outils alternatifs, mais il y a tout un travail d'accompagnement et de pédagogie autour, et c'est bien le rôle des CMA, et puis des missions que tu mets en place. Et en effet, nous avons vu que tu avais lancé cette semaine la plateforme Bertel Numérique, qui regroupe justement ces outils libres au service des associations. Donc ça répond à tout l'enjeu politique dont tu nous parlais justement. Et puis ça répond aux besoins justement d'accompagnement avec les méthodes des CMA plus particulièrement. Je ne sais pas si tu souhaites peut-être juste terminer là-dessus, nous expliquer en quoi consiste vraiment toute la spécificité des CMA là-dessus, les méthodes actives, l'éducation nouvelle, et en quoi ça peut vraiment porter l'essaimage des logiciels libres et le développement du monde du libre.
Écoute, ouais, alors là, pareil, j'ai essayé de le faire en deux mots. J'ai dit en introduction que les CMA étaient une association d'éducation populaire, certes, mais aussi, et puis c'est ce qui fait un peu notre spécificité, un mouvement d'éducation nouvelle. Alors, l'éducation nouvelle, elle n'a de nouvelle que le nom, elle a plus d'un siècle, c'est un courant pédagogique au départ, qui défend le principe d'une participation active des personnes, des individus dans leur propre formation. Donc on part du principe que c'est pas une accumulation de connaissances, mais que l'éducation nouvelle, c'est un facteur de progrès global de la personne. Donc on fait en sorte de partir des centres d'intérêt, de susciter, de renforcer l'esprit d'exploration, de comprendre par soi-même, de la coopération, parce que c'est vachement mieux quand on apprend à plusieurs et chacun a des compétences qui peut mettre au profit du groupe et qui vont lui revenir de toute façon. C'est un peu ça le principe des méthodes actives dans toutes nos démarches. On fait en sorte de mettre ça en œuvre. Avec la coopération au centre de l'idée, ça rejoint bien la logique du logiciel libre. On est franchement plus intelligent quand on fait des choses à plusieurs et ensemble, et qu'on mutualise et compétences et connaissances. Donc, voilà, vraiment, encore une fois, pour faire très court, et puis je vais me faire gronder par des copains s'ils entendent comment j'ai résumé l'éducation nouvelle, mais voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ces méthodes qu'on met en œuvre, et puis surtout, on essaye de faire le lien, mais tu l'as dit, entre les assos, les logs du libre, et puis nous, nos approches pédagogiques, c'est-à-dire qu'on a à apprendre et aussi à apporter sur les expériences utilisateurs qu'on rencontre, qu'on côtoie au quotidien, pour que le logiciel ou le service ou l'outil soit le mieux adapté, et dans le même temps, faire ce lien. Parce qu'il faut vraiment continuer à le renforcer. Il y a des choses merveilleuses qui se font, mais parfois elles ne sont pas suffisamment connues, ou tout simplement parce que ce n'est pas leur boulot. Moi, je ne suis pas développeur, et si je me mettais à coder, je me ferais... on me hurlerait dessus parce que je coderais comme un pied. Y a des associations du libre qui sont très très bonnes dans le codage, dans le paramétrage d'ordi, etc., et qui parfois le sont un peu moins dans l'accompagnement des personnes. Alors ça ne veut pas dire que c'est que l'éducation populaire ou que les CMA qui doivent faire ça, mais on a à s'enrichir de nos démarches et de nos pratiques. C'est typiquement ce qu'on fait avec Framasoft en ce moment.
Eh ben, on te remercie beaucoup, beaucoup, Pascal, pour toutes ces explications. Et puis, tu termines avec un bel appel à l'action, justement, pour rapprocher les acteurs du libre et de l'éduc-pop. Alors, on va te suivre, on va suivre ce mouvement-là. Et puis, on rappellera, bien sûr, en fin d'émission, les liens envers la mission du libre, les plateformes Bertha Numérique. Et voilà, on te remercie beaucoup, beaucoup, Pascal.
Merci.
Merci à vous de l'invitation. Désolé, je peux vraiment pas rester là, je dois partir, mais... Mais merci de l'invitation, en tout cas.
Non, c'était vraiment un grand plaisir pour nous. Et puis, à tout bientôt de contribuer ensemble.
Ça marche.
Très bonne journée à toi.
Au revoir.
Bien, on a eu une entrée en matière... par le concret, merci pour le générique Rémi, avec l'exemple des CMEA. Audrey, tu peux peut-être juste nous redonner la définition, une définition courte de l'éducation populaire, même si ça nous a été introduit par notre intervenant.
Oui.
Et puis peut-être un exemple dans la foulée.
Oui, c'est vrai qu'on a eu une explication assez claire, mais pour resituer un petit peu le sujet, le principe de l'éducation populaire, c'est vraiment de promouvoir à côté, en dehors du système d'enseignement traditionnel, une éducation qui vise la transformation et le progrès social. Alors ça, c'est vrai que c'est des jolis mots, mais c'est surtout un mouvement qui est fondé sur l'idée que l'émancipation individuelle et l'émancipation collective, ça passe par des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes, et notamment les méthodes actives, les méthodes d'éducation nouvelle dont Pascal nous a parlé un petit peu avant. Donc ça insiste sur le fait que l'apprenant doit être mis en mouvement, doit participer vraiment pour ensuite être en situation d'apprentissage et pour acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-vivre. Et donc il est en situation de recherche, de tâtonnement, etc.
Bon, c'est un peu théorique ce que tu nous dis là, ça fait envie, mais c'est un peu théorique. Y a des exemples, ça existe pour de vrai ça ?
Ouais, mais si, c'est vrai, ça existe depuis un petit moment. Et puis même davantage dans le monde du libre même, parce qu'on a pas mal parlé de Framasoft dans l'émission déjà. Et oui, l'éducation populaire selon Framasoft, c'est déjà un petit peu plus concret, puisque l'éducation populaire à un numérique libre et émancipateur, ça repose sur des choses très concrètes. Alors, Framasoft présente ça comme un repos sur trois piliers, le pilier social, technique et solidaire. Et donc là, ça, c'est social, parce que tout utilisateur des logiciels libres va être créateur, il va contribuer au logiciel. Ça va être technique parce que par le logiciel libre, eh bien, on peut retrouver son autonomie numérique, mais surtout par le développement de code. Et là, je pars un peu trop loin, je m'embrouille. Et puis après, c'est aussi solidaire parce que le logiciel libre est transparent, il se partage, il veut partager le code, le bon code, les bonnes solutions. Et ça, c'est toute l'initiative du projet Chaton. Voilà.
Ok, eh bien écoute, tu me tends la perche une nouvelle fois, le projet Chaton, donc des choses dont on parle régulièrement dans les émissions, c'est-à-dire la reproduction, l'essaimage de l'initiative de Framasoft, et donc pour rappel, c'est ce que nous avons fait avec Picasoft, hein, en créant donc un chaton à Compiègne, et donc de la même façon, eh bien on essaye aussi d'avoir une petite mission modeste d'éducation populaire. On va aborder quelques-uns de ces aspects. Mais puisque tu as commencé, Audrey, je crois que tu étais aux Journées du logiciel libre à Lyon sur le stand Picasoft. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots un petit peu? Quel type de gens on rencontre? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre d'endroit?
Et oui, parce qu'au JDL, c'est là qu'on croise beaucoup de chatons, en fait. Les Journées du logiciel libre, ça regroupe tout plein d'acteurs du libre autour d'événements qui sont destinés à présenter au grand public, notamment, des conférences, donc des outils conceptuels pour comprendre un petit peu en quoi consiste le libre et les enjeux du numérique plus généralement. Il y a aussi des ateliers qui sont organisés pour découvrir des outils alternatifs libres. On peut être aidé pour avoir, par exemple, Linux installé sur sa machine lors d'install party. Enfin voilà, c'est un lieu de rencontre aussi, puisqu'il y a tout un village associatif où là, beaucoup d'associations, donc on l'a dit, des chatons, des associations d'éducation populaire, bien sûr, et puis voilà, une cinquantaine d'associations qui sont présentes, qui tiennent un stand et avec lesquelles on peut venir discuter. Et donc, ça s'adresse à tout type de public. Que ce soit tout à fait des personnes amatrices, on dit, ou des experts Linux, qui viennent discuter et puis enrichir leurs connaissances mutuelles autour du libre. Et Picasoft, du coup, on y était cette année, c'était le 6 et 7 avril, tu l'as dit, à Lyon. Et puis d'ailleurs, on était juste à côté du stand de CMEA, mais c'est fou.
Et donc cette année, on était aussi au Paris Open Source Summit. Là, tu n'y étais pas, Audrey, mais en revanche, Rémi, tu étais présent. Est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots un petit peu ce qu'on y a fait?
Oui, en quelques mots, je vais même aller plus loin. L'action de Picasoft, c'est... En plus d'une action d'hébergement, une action de sensibilisation et de formation. Donc dans ce cadre, on était, tu l'as dit, au Paris Open Source Summit, où on a tenu un stand et où tu nous as fait une magnifique conférence.
Nous avons fait, Rémi. Souviens-toi.
C'est vrai. Sur la décentralisation du net et sur comment ouvrir un chaton associatif. Et on fait aussi tout au long de l'année différentes actions de sensibilisation, donc rapidement, régulièrement des install parties, des conférences pour le grand public. Par exemple, il y a quelques temps, 3-4 membres qui sont allés à Paris faire une intervention à la mairie du second arrondissement. C'était une intervention tout public, Audrey, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. C'était ouvert à tout public. Alors, je n'y étais pas.
Mais il y avait des gens de Picasoft, c'est sûr.
Voilà. Oui, ça, c'est sûr. Donc, une intervention avec pour titre « Les chatons libèrent Internet ». Donc, un atelier qui a eu lieu le 13 avril avec au programme « Comment fonctionne Internet ? Bonnes pratiques pour protéger sa vie privée » et « Alternatifs libres ». Picasoft participe aussi depuis plusieurs années à la fête de la science qui a lieu à l'UTC. Peut-être Stéphane, quelques mots dessus?
Oui, ça se passe chaque année à l'automne, début octobre en général. On l'a fait au moins deux fois. Je me demande si c'est pas trois déjà, mais voilà, ma mémoire me joue des tours, mais au moins deux fois. Et l'idée, c'est que le jeudi et le vendredi, eh bien, on accueille des écoles. Donc on accueille plein d'écoles, de la maternelle au lycée. Et puis, bah, pareil, on fait un petit peu ce qu'on fait là. On leur explique en quelques mots comment marche Internet, l'enjeu des données personnelles, l'enjeu de la collecte des données par les GAFAM, etc. On essaie de discuter un peu avec les jeunes, voire les enfants. Et puis, le samedi dimanche, eh bien, là, c'est ouvert aux familles. Et donc, on accueille les citoyens. Et de la même façon, on a des échanges qui sont basés sur des petites pratiques. Hein. Toutes nos interventions, c'était un peu la même chose. C'est la même chose qui s'est fait également lors de l'intervention à la mairie du second arrondissement dont tu as parlé. Consiste à présenter un peu des enjeux, puis faire des petites manipulations, tester des outils de Picasoft, de Framasoft par exemple, d'autres outils OpenStreetMap dont on a déjà parlé, Firefox, Quant, etc. De voir un peu comment ils fonctionnent et de discuter autour.
D'accord. Pour finir sur cette partie et expliquer encore un petit peu ce qu'on fait, on fait régulièrement des conférences et des ateliers dans les collèges et les lycées, majoritairement dans notre région à Compiègne, quand même un acteur assez local. Mais aussi finalement à l'UTC, on organise globalement deux ou trois formations le soir par semestre. Et puis surtout, on organise depuis le semestre dernier deux semaines d'API. Donc les API sont les activités pédagogiques d'intersemestre que tu as participé à créer du coup le semestre passé, Stéphane.
Oui, qui a été créé à l'UTC, oui, j'y ai participé, oui, on y participe tous.
Et donc, notamment, une de nos deux API, l'API Init, qui avait pour but de permettre à tout UTC1 de découvrir les valeurs, les outils du logiciel libre à travers une initiation au système Linux, à la gestion de version et même finalement une petite introduction à la programmation.
Tout à fait. Dans les événements actuels là, qui se préparent, on va avoir l'intervention de Picasoft à Passage en Seine. À chaque fois, on se fait avoir quand on le prononce. Je me suis fait avoir encore. Pourtant, on s'entraîne. Du 27 au 30 juin, donc à la fin de ce mois-ci, il y aura un atelier qui s'appelle « Venez apprendre à libérer vos appareils ». Donc l'idée est d'envisager de sortir de Windows ou de Windows sur PC ou de Google sur Android. Donc des installs parties Linux, la découverte d'un système d'exploitation pour smartphone qui s'appelle Lineage OS, la découverte du chiffrement, etc. Donc si vous êtes à Paris le week-end dont j'ai parlé de fin juin, n'hésitez pas. Et il y aura également une conférence qui s'appelle Picasoft, un chaton étudiant en Picardie. C'est donné trois missions, hébergement, évangélisation et formation. Je ne suis pas sûr que ce soit le titre, mais ça nous donne en tout cas le thème de l'intervention. Peut-être qu'on peut ouvrir un tout petit peu, puisque également, tu l'as cité Rémi, on fait des conférences et ateliers en collège-lycée. On est ouvert en fait aux différentes interventions, aux différentes sollicitations qui peuvent nous être faites. Audrey, tu organises des choses, tu as essayé d'organiser des choses ce semestre et peut-être le semestre prochain.
Voilà, en fait, on est en contact avec des enseignants et des enseignantes des lycées de Compiègne en particulier. Et puis, alors c'est vrai que la période de juin est un petit peu complexe parfois pour les lycées, mais en tout cas, à la rentrée, c'est vrai que c'est prévu. On a des contacts rapprochés et puis on va venir dans les établissements scolaires pour essayer de parler un petit peu de tout ça aux plus jeunes.
Et puis, peut-être dernier point qu'on peut citer, ce qu'on fait à la radio, ça compte aussi, je pense, comme de l'éducation populaire. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, on est en train de faire de l'éducation populaire sur de l'éducation populaire. Est-ce qu'on appellerait ça de la méta-éducation populaire ?
Ah ouais, non mais là Stéphane, tu vas nous perdre. Alors on va s'arrêter là et puis si vous voulez, vous pouvez contacter Picasoft si vous avez des idées d'ateliers et de conférences à nous proposer. On est là et on vient.
Ok, bon alors pour ne pas vous perdre, je continue de me contenter de poser les questions. La prochaine, Audrey, pour toi à nouveau. Je crois qu'on l'a, pareil, on l'a largement abordé dans l'introduction, mais ça vaut le coup d'y revenir. En quoi, en fait, il y a un lien entre la question du logiciel libre, c'est-à-dire chercher à faire autre chose que du logiciel propriétaire, et l'éducation populaire? Pourquoi, en fait, c'est important, selon nous, pour les citoyens, de se rapproprier ce débat autour du logiciel libre? Je pense que ça a notamment à voir avec les données personnelles. Tu peux nous redire quelques mots là-dessus?
Oui, bah en fait, tout l'enjeu du contrôle des données personnelles, c'est de savoir que les données personnelles aujourd'hui, elles portent tout un rapport de force en fait, et donc il est important d'avoir des citoyens qui soient conscients de l'utilisation de leurs données pour qu'ils puissent justement rééquilibrer ce rapport de force et puis savoir ce qui va être fait de leurs données, comment est-ce qu'elles vont être collectées, comment est-ce qu'elles vont être transmises à des tiers. Et donc c'est vrai qu'avec le logiciel libre, l'utilisation des données est tout à fait transparente et ça rebascule un petit peu les rapports de force du bon côté, on pourrait dire. Et donc c'est vrai que tout l'enjeu de l'éducation populaire sur ces questions-là, c'est de sensibiliser à la nécessité de reprendre le contrôle de ces données pour les citoyens, pour protéger sa vie privée et puis d'ailleurs sa liberté d'expression, parce que ça va avec.
Donc ce que tu es en train de nous dire, Audrey, c'est que la question du logiciel libre, ce n'est donc pas seulement un problème d'informaticien, ce n'est pas qu'une question technique, une question de code. Alors d'ailleurs à l'UTC, hein, on pense qu'une question technique a toujours à voir avec des questions humaines, sociétales, et donc encore une fois c'est le cas ici.
Bah ouais, on a vu que le logiciel libre, c'est vrai que ça libère beaucoup plus que du code, si on veut revenir un petit peu sur ce qu'on s'est dit au départ, puisque le logiciel libre, ça contribue vraiment à rééquilibrer ces rapports de force-là. Donc ça a des conséquences vraiment sur notre société numérique, sur... alors je me perds, alors je voulais dire que c'est à partir du moment où... on donne lieu à une éducation populaire sur ces outils que on va se réapproprier notre pouvoir de citoyen parce que notre société numérique, Pascal a insisté là-dessus. Et donc, ce qui est important, c'est que l'on puisse ensuite être conscient de ça et contribuer à notre tour à transmettre cette émancipation, cette liberté-là.
Tu t'es en effet un peu perdu, Audrey, mais justement, un des enjeux aujourd'hui, c'est de montrer que ça va être de montrer que faire de l'éducation populaire, c'est aussi justement s'exposer, c'est aussi éventuellement arriver sur des sujets qu'on ne maîtrise pas absolument parfaitement, et que c'est pas toujours l'essentiel de tout savoir parfaitement pour venir l'exposer de façon descendante. Alors je n'en dis pas plus parce que sinon je vais griller la réponse du quiz que je te laisse. Nous présenter à nouveau.
Eh ouais, bah oui, parce que le quiz va vous surprendre, mais il est absolument sur ce thème, parce que si nous ne vous avions pas encore convaincus, chères auditrices et chers auditeurs, que nous souhaitons libérer autre chose que du code, eh bien, il y a encore temps pour nous de vous proposer ce quiz et puis de vous émanciper justement sur ces questions. C'est un quiz à propos d'un concept pédagogique révolutionnaire et qui permet à chacun de se lancer dans une démarche d'éducation populaire et d'apporter sa pierre. Alors, ce sont les introductions. Par opposition à la figure du maître explicateur, qui transmet le savoir qu'il possède à ses élèves en maintenant une relation de domination intellectuelle, quel nouveau maître propose le professeur de français Joseph Jacotot afin d'instaurer une pédagogie plus émancipatrice ? Est-ce que c'est, première réponse, le maître-élève ? Est-ce que c'est, deuxième réponse, le maître ignorant ? Troisième réponse, est-ce que c'est le maître sympa ? Ou quatrième réponse, est-ce que c'est le maître absent ? On va vous laisser, Stéphane.
On va mettre la musique le temps de vous laisser chercher la réponse. Un petit indice peut-être, ceci est décrit dans un ouvrage du philosophe Jacques Rancière. Et je profite d'avoir la parole pour faire un petit salut à mon ami Grib qui m'a fait découvrir cet ouvrage. Et on envoie la musique.
Donc, le titre de la musique, peut-être ?
Ah oui, oui.
C'est Quickstand de White Light. Et c'est parti.
Me to meet her. You say, go on what you think. Unconscious.
Et donc, c'était Quick Stand de Wild Light, une musique libre sous licence CC by SA. CC by NCSA, pardon, que vous pouvez retrouver sur Free Music Archive. La réponse au quiz, Audrey, je te laisse nous l'annoncer.
Eh bien, la bonne réponse, c'était le maître ignorant, puisque le maître ignorant ne transmet pas son savoir, mais il crée la situation qui permet l'apprentissage de ce savoir. Et en effet, si on veut développer un petit peu la révolution qu'apporte ce nouvel enseignement par rapport aux précédentes pédagogies qui étaient plus verticales, c'est que le maître est ignorant et apprend également de son élève. C'est donc un enseignement plus horizontal qui croit en l'égalité des intelligences. Chère auditrice, cher auditeur, libère-toi du maître savant et abrutissant et ouvre-toi au maître ignorant et émancipateur.
Ok, les maîtres savants et abrutissants te remercient. Par ailleurs, donc on va créditer le générique de l'émission. On a volé le début d'une chanson qui s'appelle Near Death Experience de l'album Dead Frequencies du groupe Marker Beacon, à retrouver sur markerbeacon.org en licence CC by SA. Et on aura l'occasion de revenir dans une prochaine émission sur le sens de ces sigles étranges. Enfin, si si vous voulez retrouver des informations complémentaires. Les liens seront disponibles depuis notre site radio.picassoft.net et je mentionne donc pour l'émission d'aujourd'hui liberon-nous.cma.asso.fr, bertel.re, school.picassoft.net plus près de chez nous, et puis pour la fête de la science, www.utc.fr/fête-de-la-science tout attaché, où vous retrouverez les interventions de Picassoft, mais également les interventions de tout un tas d'autres enseignants et étudiants de l'UTC avec plein d'autres choses au moins aussi passionnantes. Merci à tous, et je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.